Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Radio Okapi présenté par Gisèle Cage. Voici les principaux titres de l'actualité. Kinshasa à nouveau inondé, des morts, des maisons effondrées, des routes coupées et des quartiers submergés. La circulation est fortement perturbée et de nombreuses familles se retrouvent sans abri après les fortes pluies de ces samedis. Libéro, plus de 1500 morts en un an dans des attaques de rebelles ADF. La société civile exhorte les autorités à agir rapidement pour rétablir la sécurité dans cette région dévastée. Ituri, les enfants victimes des conflits. La société civile alerte sur l'exploitation des centaines d'entre eux dans des conditions précaires à l'occasion de la journée mondiale contre le travail des enfants célébrée le 12 juin. Radio Okapi accueille David Ramazani, activiste pour le droit de l'enfant, pour en discuter. Ne manquez pas cette interview exclusive. La capitale congolaise a été durement frappée ce samedi matin par une pluie torrentielle, laissant derrière elle un lourd bilan, des pertes en vies humaines, des maisons détruites, des routes coupées et plusieurs habitations inondées dans des différentes communes. Alors que la circulation a été fortement perturbée dans plusieurs quartiers, de nombreuses familles se retrouvent sans abri, contraintes de passer la nuit à la Belle Étoile après que leurs maisons ont été submergées par les eaux. Le point avec Plantaire.
Les dégâts causés par cette pluie sont encore visibles dans plusieurs communes de la capitale. À Mbanza Limba, dans la commune de Limba, un couple est décédé à la suite de l'écroulement d'un mur de leur habitation. L'information est confirmée par les bourgmestres de la commune Jean-Serge Poba. À Kalamu, plusieurs infrastructures, notamment des ponts, ont été détruites, perturbant ainsi la circulation d'après son bourgmestre Charlie Louboya. La commune de Kisenso n'est pas en reste. Quatre maisons se sont écroulées. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, explique son bourgmestre Godé Actuel.
Nous, la commune, nous devons construire des bassins d'eau de rétention. Nous l'avons fait. Certains habitants ont aussi fait, mais d'autres n'ont pas fait. Conséquence, nous avons des érosions. Voilà pourquoi j'invite ma police à être très sévère pour arrêter tous ceux qui n'ont pas de drain parcellaire.
À Limété, des cas d'inondation sont rapportés au quartier Ndanou, alors qu'à Mongafula, plusieurs têtes d'érosion ont progressé à la suite de cette pluie, occasionnant la destruction de quelques habitations, comme dans la commune voisine d'Ingaliema, où l'avenue Okapi, dont les travaux de réhabilitation étaient en cours, s'est coupée en deux. Plusieurs morts seraient enregistrées dans la commune d'Ingaliema, selon plusieurs source.
Un habitant de Mboudi témoigne après les inondations causées par la pluie de la nuit. Il revient sur les causes récurrentes des inondations dans cette zone de Mboudi entre urbanisation anarchique, absence des canalisations et manque d'entretien des infrastructures. Un témoignage recueilli par Benjamin Moudoumbi.
Il y a trop de dégâts qui se sont produits dans les quartiers. Il y a eu d'abord le débordement de l'eau, puis nous sommes des victimes de cette inondation. L'inondation, c'est dû. Il y a des gens du quartier, voire même les autorités qui ont construit sur l'eau. Voyez, on a intercalé les passages d'eau. L'eau n'a pas où passer, oui. Je demande aux autorités compétentes qu'ils puissent un peu chercher une solution très rapide. Parce que c'est un peu urgent. Il y a la vie de nos enfants. Nous, on est des responsables, on est des travailleurs. Ça peut faire que nous, on est sortis, les enfants sont restés. Donc, ça va créer les dégâts. Pour notre population, je leur demande qu'ils cessent de jeter des choses dans les caniveaux là-bas. Parce que quand ils jettent des choses dans les caniveaux, les choses n'ont pas bouché des caniveaux. Il n'y a pas de passage de l'eau.
En lien avec ces inondations, le gouvernement congolais est appelé à adopter une politique de gestion quotidienne qui tienne compte des géo-risques dans un contexte de dérèglement climatique de plus en plus perspectible. L'appel est lancé par le professeur Kabasele Yenga-Yenga, docteur en physique spatiale du climat et responsable de l'Observatoire spatial des ressources naturelles et du climat. Réagissant aux nombreuses interrogations suscitées par les fortes pluies qui se sont abattues cette nuit à Kinshasa, alors que la population pensait être en pleine saison sèche, le scientifique alerte les effets du dérèglement climatique vont s'intensifier dans les jours à venir. Le professeur Kabasele Yenga-Yenga s'exprime au micro de Billy Yvan Lutumba.
Il n'y a jamais eu pour 2025 le début d'une saison sèche.
Non, nous sommes toujours dans la saison des pluies qui s'est déplacée d'un mois, du 15 mai au 15 juin. Normalement, je suppose que nous sommes maintenant vers la fin de la saison des pluies. Et c'est un dérèglement climatique. On a là un problème sérieux pour lequel on doit devoir s'adapter vis-à-vis du géorisque qui doit être tout un programme du gouvernement. Je demande ici que l'État congolais se saisisse de cette question. Il faut prévoir les catastrophes naturelles comme faisant partie du quotidien. Parce que maintenant, on aura des réchauffements climatiques chaque année. On en aura. Il y en avait tous les 10 ans depuis les années 90. Et en 2000, il y en avait tous les 5 ans. En 2010, il y en a eu tous les 2 ans. Et après 2020, on doit s'habituer aux inondations chaque année. Et ces inondations sont concentrées au mois de novembre-décembre et au mois de mars-avril-mai. Et maintenant, juin vient de s'ajouter pour la première fois dans l'histoire du climat en RDC.
Le professeur recommande également au gouvernement de prévoir dès maintenant une logistique adaptée pour faire face aux conséquences du changement climatique, tant sur le plan médical qu'humanitaire. Équateur, le bilan du naufrage survenu mercredi 11 juin sur les eaux du lac Tomba, près de la cité des Bikoro, grimpe à 80 morts, selon la coordination provinciale du panel des experts de la société civile de l'Équateur. 26 nouveaux corps ont été repêchés depuis la nuit dernière, portant le bilan provisoire à 80 morts. De nombreuses personnes restent toujours portées disparues. Face à cette tragédie, la société civile dénonce le silence du gouvernement central qui n'a jusqu'à présent publié aucun communiqué officiel ni exprimer des condoléances aux familles endeuillées. Dieu merci, Akula Mboyo, secrétaire rapporteur du panel des experts de la société civile de l'Équateur, s'exprime à ce sujet au micro de Alain Irung.
Nous dénonçons avec force le silence inacceptable du gouvernement central qui jusqu'à présent n'a émis aucun communiqué officiel pour présenter ne serait-ce que des condoléances aux familles endeuillées. Les ministères des Transports, pourtant directement concernés, brille par son inaction face aux défis récurrents du secteur fluvial. À quoi sert-il si aucune mesure concrète n'est envisagée pour prévenir ces tragédies? Sur le plan local, le gouvernement provincial tente de rembourser une partie des frais engagés par certaines familles pour l'achat des cercueils. Malheureusement, cette opération est faite avec une injustice criante, suscitant ainsi colère et indignation de la population qui se sent abandonnée. Les corps déjà pourris sont enterrés le long du lac dans des conditions inhumaines. Le temps n'est plus au discours, mais à des actions urgentes, transparentes et humaines.
La ville de Badolité, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi, plongée dans le noir depuis 8 mois, c'est ce qu'alerte la société civile locale qui pointe du doigt l'arrêt de la centrale hydroélectrique de Mobayimbongo survenue à la suite de l'inondation du barrage le 23 octobre 2024. Cette panne prolongée a des lourdes conséquences sur la vie quotidienne des habitants. De nombreuses activités socio-économiques et professionnelles sont paralysées, affectant durement le tissu économique local. Askanzi Biatayoro nous en dit plus.
C'est à l'hôpital général de référence de la ville que les conséquences du manque d'électricité se font sentir. Selon les témoignages recueillis sur place, la morgue de cet hôpital ne sait plus conserver des corps. Plusieurs familles sont obligées d'amener directement au cimetière le corps sans vie de leurs membres. Les ajustés, les soudeurs, les tenanciers des bars et restaurants peinent et éprouvent assez de difficultés malgré les recours aux groupes électrogènes. La vie est devenue intenable à Badolite, comme explique Taïma Taylor, président de la société civile du Nord Ubangi.
La coupure de courant nous a créé beaucoup de problèmes. Les gens qui se démenaient avec l'électricité, pour le moment, tout est bloqué. Je pourrais encore ajouter qu'il y a eu ce qu'on appelle l'insécurité maintenant dans la ville de Badolité. Et à cause de l'obscurité, c'est une situation grave pour la ville. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Donc, tout est devenu trop cher.
Contactez le directeur de la SNEL Badolité, Maurice Ewango, dit que la direction générale de sa société avait dépêché de Kinshasa et de Inga une équipe pour des travaux de rétablissement de la machine endommagée par l'inondation au barrage de Mobayimbongo. Mais jusqu'à présent, les travaux n'ont pas abouti au résultat escompté.
Un an après les massacres perpétrés le 12 juin 2024 à Makengo, dans le secteur de Bapéré, la société civile du territoire de Lubero dresse un bilan alarmant. Plus de 1500 personnes ont été tuées en l'espace d'une année dans une série d'attaques attribuées aux rebelles des ADF. Selon cette structure citoyenne, une vingtaine de villages ont été ciblés depuis ces événements avec une intensification de violence au fil de mois. Elle appelle les autorités à prendre des mesures urgente pour restaurer la sécurité dans cette région meurtrie. Fiston Kabunga, président de la société civile de Ndiapanda Mangurujipa, s'exprime à ce sujet au téléphone de André Kitenge.
À l'occasion des tristes anniversaires d'une année de massacre dans cette partie nord du territoire de Lubero, la première incursion des rebelles ADF du territoire de Lubero avait lieu dans la région de Mangurujipa, à secteur de Bapere, dans le groupement Bapakombe, à village Maikengu. Avec plusieurs conséquences, plus de 43 civils avaient péri pour la première incursion. Néanmoins, cette hémorragie s'est élargie partout dans la partie nord du territoire de Lubero durant une année qui vient de s'écouler. Plus de 1500 personnes ont sommairement perdu la vie. De nombreux portés disparus. D'importants dégâts matériels n'ont pas été du reste. C'est pourquoi la population veut voir l'implication des autorités et trouver les solutions adéquates afin de restaurer la sécurité et la paix.
Et puis on visite à Goma, dans la province du Nord Kivu. Depuis jeudi, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a rencontré ce samedi 15 juin le commandant de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le général de division Monwabisi Diakopou. Et selon des sources du protocole, les échanges ont porté notamment sur le soutien et la solidarité de la MONUSCO envers les forces régionales de Sami DRC dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants. Pour rappel, la mission de la SADC en RDC a entamé son retrait progressif de l'est du pays depuis avril dernier, conformément à la décision prise le 13 mars par le chef d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. La deuxième phase de ce retrait a débuté cette semaine avec le redéploiement d'hommes et des matériels vers la Tanzanie via le Rwanda. Parlons santé. Dans le sud du territoire de Lubero, Nord Kivu, les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent l'installation urgente d'une unité de transfusion sanguine dans la région. Actuellement, les structures médicales locales dépendent des centres de transfusion de Rutshuru et de Butembo situés à plusieurs kilomètres dans une zone marquée par l'insécurité. Cette situation complique considérablement l'accès rapide au sang, souvent vital pour les patients. Le docteur Benjamin Koumi, médecin au centre de santé de référence de Kirumba, explique que dans bien des cas, les soignants n'ont d'autre choix que de faire appel aux membres de la famille du patient pour obtenir du sang, une solution loin d'être simple ni toujours efficace. On l'écoute.
Les conditions dans lesquelles on travaille, ce ne sont pas vraiment de bonnes conditions, surtout à terme d'accessibilité au sang. Et on est obligé maintenant, pour essayer de suppléer à cela, on doit recourir aux membres des familles qui doivent donner maintenant le sang. Et bien sûr, ce sang sera testé aux 4 marqueurs. Mais cela n'est pas aussi une garantie puisqu'il fallait qu'on ait vraiment un sang qui vient des centres transfusionnels et a bénéficié de toutes les analyses possibles. Si on a un centre transfusionnel, ça peut nous aider à mobiliser autant de poches de sang pour essayer de suppléer à ces besoins que nous avons. Et si c'est un appel pressant que nous lançons au niveau de la communauté, que c'est un besoin dans nos hôpitaux, si nous nous donnons à donner le sang, c'est déjà une vie qui est sauvée.
Donner du sang, donner de l'espoir, ensemble sauvons des vies, tel est le thème de la journée mondiale du don du sang célébrée cette année. Un appel à l'action qui rappelle l'importance vitale de chaque don. Kolwezi, dans la province du Lualaba, des quartiers rayés, des cartes au profit des mines, alerte Amnesty International et l'initiative pour la bonne gouvernance et le droit humain IBGDH. C'est l'alerte lancée hier vendredi à Lubumbashi par les deux organisations lors d'une conférence de presse conjointe. Les deux organisations dénoncent des expulsions forcées des populations pour faire place à l'exploitation minière ainsi que des délocalisations entachées d'irrégularités et de violations violations de droits humains. Donna Kambola, coordonnateur de l'IBGDH, s'exprime à ce sujet au micro de Paulin Munanga.
À cause de l'exploitation minière, les familles perdent des logements, les familles perdent des terres arables et ce sont plein de réinstallations. Mais aussi, le point culminant de ces expulsions aujourd'hui, c'est la disparition de la ville de Colosie elle-même. Parce que quand vous arrivez à Colosie, le centre subit un processus de délocalisation qui n'est pas conforme à la loi à cause des activités de l'entreprise Comus. Évidemment, dans notre rapport, nous avons regardé la question en rapport avec les activités de l'entreprise Metacol, de l'entreprise Kamoa et de l'entreprise Chemaf. Nous n'avions pas les moyens pour regarder les pratiques dans toutes les entreprises, mais ces quatre entreprises sont quand même assez démonstratives par rapport à la question des expulsions forcées. Vous suivez par exemple aujourd'hui que l'entreprise Kamoa doit délocaliser 10 villages, et quand on parle de 10 villages, vous comprenez que ce sont les gens qui vont perdre leur logement, mais qui vont aussi perdre leurs moyens de subsistance qui sont les champs. Nous avons demandé au chef de l'État en des termes clairs de suspendre momentanément les processus de délocalisation en cours.
Actualité internationale.
La tension reste à son comble entre Israël et l'Iran. 24 heures après une série de frappes israéliennes d'une ampleur inédite contre des infrastructures militaires et nucléaires iraniennes, suivies des tirs des missiles balistiques iraniens en représailles, dans la nuit du 12 au 13 juin, plus de 200 avions israéliens ont mené de raids ciblant une centaine de sites stratégiques en Iran. Parmi les cibles figurent l'usine d'enrichissement d'uranium des Natanz, dont la partie en surface a été détruite selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi qu'un autre site à Isfahan que l'armée israélienne affirme avoir démantelé. Selon l'ambassadeur iranien à l'ONU, les frappes ont fait 78 morts et plus de 320 blessés, dont une large majorité des civils. En réponse, l'Iran a lancé plusieurs vagues des missiles balistiques et des drones en direction du territoire israélien. La communauté internationale appelle à la désescalade. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les deux parties à faire preuve de retenue maximale. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine et plusieurs pays arabes ont également exprimé leurs inquiétudes face à l'escalade et appellent au retour à la diplomatie.
L'invité.
En Ituri, les conflits armés persistants continuent de fragiliser les communautés, exposant les enfants à des multiples formes d'exploitation. À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, célébrée chaque 12 juin, un constat alarmant a été dressé. Des centaines d'enfants sont contraints de travailler dans des conditions précaires. Certains sont employés dans des sites miniers, d'autres dans des camps de pêche, tandis que plusieurs sont utilisés comme main-d'œuvre domestique et commerciale, accomplissant diverses tâches souvent pénibles et inadapté à leur âge. Pour en parler, Radio Capi reçoit David Ramazani, activiste de droit de l'enfant en Ituri. Il s'entretient avec Jean-Claude Loki Dile.
David Ramazani, bonjour.
Bonjour.
C'est connu de tout le monde que l'Ituri fait face à l'activisme des groupes armés et selon des experts, des responsables de ces groupes armés continuent malgré tout à enrôler des enfants dans leur rang. À votre niveau, quel état de lieu dressez-vous sur le travail des enfants en Ituri?
Aujourd'hui, ça fait plus de 7 ans que la province de l'Ituri vit une situation épais d'instabilité. Malgré les efforts de l'État congolais, il y a toujours une violation massive des droits de l'enfant, particulièrement dans les territoires d'Ndjougou qui est au sommet des violations de droits de l'enfant. Cela s'explique par l'activisme des groupes armés, la tuerie, ainsi de suite. Ça renforce la violation des droits de l'enfant et aussi dans des zones minières. Il y a une hausse de violation des droits de l'enfant parce que les enfants sont non seulement exploités dans des carrières et sites miniers, mais aussi et surtout, ils sont également exploités économiquement en exerçant des travaux susceptibles à nuire à leur avenir. Et donc, la situation des droits de l'enfant dans l'ensemble de la province de l'Ituri est à très, malgré des efforts, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc concernant l'Ituri, donc c'est une journée qui interpelle, ça nous interpelle dans les questions de protection de l'enfant contre le pire forme de travail des enfants.
Il n'y a pas que de groupes armés, David, qui bafouent les droits des enfants. Sur la liste figurent aussi certains parents et même des privés qui utilisent des enfants comme main d'œuvre, entre autres, pour des tâches ménagères, pour transporter des marchandises ou autres bagages au marché, par exemple ici à Bounia. Et c'est là l'Organisation internationale du travail. Cette journée vise aussi à promouvoir des actions de prévention et de sensibilisation à la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants. À votre niveau, que faites-vous pour vulgariser les textes relatifs à cette problématique?
Et effectivement, il n'y a pas que des groupes armés qui bafouent ce droit. Ici, on parle de la situation particulière de la ville de Bounia, par exemple, où de nombreux enfants se retrouvent dans des restaurants comme de main-d'œuvre. D'autres sillonnent toute la journée avec des articles pour vendre, ainsi de suite. Et donc, les taux des violations, et même au sein des familles, il y a des parents qui contribuent à cette violation massive des droits de l'enfant, s'agissant de pires formes de travail de l'enfant. Tout ce que nous faisons, c'est de sensibilisation à travers notamment des émissions radio, et ça, c'est à travers aussi le structure de participation d'enfants que nous supervisons ou nous encadrons. Il y a beaucoup d'émissions qui se tiennent, il y a parfois des séances de sensibilisation dans des écoles, mais il faut le dire, ce travail doit être un travail collectif, notamment avec la participation de certains acteurs clés au sein du gouvernement, la police par exemple de protection de l'enfant qui doit également s'activer davantage, mais aussi d'autres organismes du gouvernement qui doivent également s'assumer pour contribuer en fait à la lutte contre le pire forme de travail de l'enfant.
Pensez-vous que la précarité dans laquelle se retrouvent de nombreuses familles, surtout parmi les déplacés, contraint certains parents à laisser leurs enfants faire n'importe quel travail pour qu'ils ramènent quelque chose, on ne sait pas, un peu d'argent ou bien un peu de nourriture pour nourrir la famille?
Effectivement, aujourd'hui, des travaux qui ne sont pas légers, qui ne sont pas salubres, peuvent avoir d'incidence à long terme sur la croissance de l'enfant. Et donc, quoi qu'il en soit, mais le parent, déplacé qu'il soit, ne doit pas transformer leurs enfants comme étant de pionniers ou de main-d'œuvre pour la survie de la famille. Il n'est pas interdit aux parents, aux enfants d'aider le parent, mais les parents également ne doivent pas transformer des enfants à de main-d'œuvre, à des unités de production locale pour assurer la survie de la famille. La loi même, elle dit que les enfants doivent aider les parents, mais aider ne doit pas être transformé à de pires formes de travail des enfants, des travaux qui peuvent nuire au développement de l'enfant.
David Ramazani, je vous dis merci.
David Ramazani, activiste de droit de l'enfant en Ituri, était l'invité de Jean-Claude Lokidile. Il est revenu sur la situation dramatique que vivent des milliers d'enfants pris au piège des conflits armés dans la région de l'Ituri. Ainsi s'achève cette édition de votre journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Pierre Diassinois, à la présentation, Gisèle Cage, supervision éditoriale assurée par Alain Rong. Nous vous remercions sincèrement pour votre écoute attentive et votre fidélité constante. Pour rester informé en temps réel, n'hésitez pas à consulter nos plateformes numériques et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de votre journal d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute de Radio Capi.